Alors, je vais passer tout de suite la parole à Jean-Marie Nomertin de Combat Ouvrier.
Oui, bien bonsoir à tous et à toutes. Je vous transmets les salutations des camarades de Combat Ouvrier de Martinique et de Guadeloupe. La crise financière et économique actuelle se fait aussi sentir en Martinique et en Guadeloupe. Bien des maux qui, avec l'aggravation de la crise, frappent les classes exploitées d'Europe, nous les connaissons en permanence aux Antilles. Nous avons toujours connu un chômage à 35%. Nous avons toujours connu un taux de chômage de jeunes particulièrement élevé et ces milliers de petits jobbers qui vivotent de petits boulots en petits boulots. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans, selon le ministère des Outre-mer, est de 60% en Martinique, 53% en Guadeloupe, compte chez vous moins de 23%, ce qui est beaucoup. Mais à la crise de structure d'un système issu du colonialisme et de l'économie de plantation, vient s'ajouter la crise financière, économique, européenne et mondiale aujourd'hui. C'est la double peine en quelque sorte. Alors bien sûr, vous n'entendez pas comme en France parler aux Antilles de centaines ou des milliers de licenciements ou de suppressions d'emplois comme ça d'un coup. Et pour la bonne raison, il n'y a pas d'entreprise qui concentre autant de milliers de travailleurs. Dans le passé, la classe ouvrière se confondait pour l'essentiel avec le prolétariat agricole qui était concerné par les champs de canne, qui était concentré dans les champs de canne à sucre et dans les sucreries. Le nombre des salariés est à peu près de 110 000, aussi bien en Guadeloupe et en Martinique aujourd'hui, pour une population de 450 000 sur chaque territoire. Mais ils sont dispersés dans une série de petites, très petites entreprises, si bien que les licenciements ne sont pas spectaculaires. Mais vous savez, lorsque surviennent 5, 8, 10 licenciements ou suppression de postes, ça prend pour nous une dimension considérable. Au moment où je vous parle, il y a des salariés qui ne sont pas payés depuis 2-6 mois. Les travailleurs du groupe Sodexo, dans la restauration et dans les collèges et le lycée, n'ont pas été payés depuis juillet. Le groupe 4J, propriétaire des cliniques, s'apprête à vendre certaines de ces cliniques à un autre groupe réputé, Voyou. Les quelques grands groupes qui ont un pied dans les Antilles, tels que Air France ou Air Caraïbes, s'apprêtent à licencier dans l'aérien. Dans l'hôtellerie, les sociétés prennent de plus en plus l'habitude de fermer leurs portes en licenciant les travailleurs après avoir, pendant les premières années, empoché les subventions, après avoir profité grèvement de toutes sortes. Ou alors, elles revendent les hôtels en les transformant en une série de petits studios d'appartements privés. Dans la banane, beaucoup de plantations fermées, mettant ainsi plusieurs centaines de travailleurs sur le carreau en quelques années. C'est surtout dans le secteur public et parapublic que les effets les plus spectaculaires de la crise se font sentir. C'est là aussi qu'il y a une forte concentration des travailleurs. Dans les hôpitaux, à l'EDF, à la Sécurité sociale, à la CAF et au niveau des collectivités, Conseil général, Conseil régional et des municipalités. Quant à la prime de vie chère de 40%, elle est fortement menacée. Nous rappelons qu'à l'origine, l'État avait institué cette prime pour inciter les fonctionnaires dits métropolitains à se rendre aux Antilles. C'était une prime coloniale et discriminatoire. Elle fut étendue aux fonctionnaires locaux à l'issue d'une grève interprofessionnelle mémorable de plus de 3 mois en 1952. Les employés municipaux ont dû se battre pour l'arracher aussi, pour l'obtenir, à coup de lutte et de grève. Certains salariés du privé ont aussi arraché par la lutte les 40% de vie chère, notamment dans les banques, chez Nicolas Antille, à EDF, les ouvriers civils de l'État, les ouvriers civils du POC national, la CAF et la Sécurité sociale. Mais depuis quelques temps, les nouveaux employés en CDD ou en CDI, notamment à la Poste et au France Télécom, ne l'aperçoivent plus. Ce n'est pas encore le cas dans l'enseignement, par exemple, mais les gouvernements de droite et de gauche cherchent par tous les moyens à rogner un peu à peu cette prime acquise de haute lutte. Quand on sait que le produit intérieur brut par habitant en Guadeloupe est de 18 000 euros, la suppression des 40% amènerait une dégradation du niveau de vie dans toute la classe ouvrière et entraînerait de fait la remise en cause du SMIC. Cela signifierait la division par deux, tant du niveau des salaires que du niveau de vie des classes exploitées. Dans les hôpitaux, comme en France, l'État veut réaliser des économies sur le dos des salariés et de la population. Certes, les hôpitaux sont très endettés, mais ce sera toujours le cas tant qu'on aura à faire une gestion comptable de la santé publique. Or, pour nous, la santé n'a pas de prix. actuellement. Actuellement, l'État veut fusionner 3 hôpitaux en Martinique. Cela va engendrer la suppression de 1 140 emplois. Tout dernièrement en Guadeloupe, le directeur du CHU a annoncé la couleur en disant que les salaires du mois d'octobre ne seront pas payés. L'administration vient de fermer 2 services à l'hôpital de l'île de Marie-Galante en Guadeloupe. L'État tente de masquer sa politique de restriction sous des expressions comme fusion, comme communauté hospitalière ou redéfinition de la carte de santé publique. Mais en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est tout simplement de supprimer les emplois dans les hôpitaux comme dans toute la fonction publique. Des suppressions de postes sont programmées à la douane, 16, à la météo, 8. Au sein du personnel des collectivités publiques, des suppressions de postes aussi sont programmées. Et c'est lié à la réduction des dotations de l'État vis-à-vis de ces collectivités. La fusion prochaine des 2 collectivités, Conseil général, Conseil régional, entraînera la suppression de plus de 1 000 postes, tant en Guadeloupe qu'en Martinique. Avec la crise, l'émigration vers la France, dite métropolitaine, n'est plus à même d'assurer un emploi stable et régulier, comme c'était malgré tout un peu le cas dans les années 60-70. À défaut de créer des emplois et de juguler la hausse des prix, qui, en 2009, avait provoqué la révolte massive de la population, on nous a généreusement gratifié de 2 ministres guadeloupéens et d'une ministre guyanaise. Qui plus est, Christiane Taubira a obtenu un ministère important, celui de la justice. Voilà donc le lot de consolation pour les peuples d'outre-mer. Mais ces ministres ont beau être issus de la minorité visible, leur volonté de changement maintenant est totalement invisible et inaudible pour les classes populaires. Hollande, comme la droite, avant lui, entend aller vers plus de décentralisation en outre-mer. Cela peut aller dans les années qui viennent vers diverses modifications des institutions, de changements modérés jusqu'à une certaine autonomie à la carte suivant les départements et territoires des Outre-mer. Mais il s'agit avant tout d'un désengagement de l'État sur le plan financier et budgétaire. Les gouvernements français de droite comme de gauche entretiennent ainsi l'illusion qu'ils tiennent compte de la méfiance largement partagée dans la population vis-à-vis des mesures prises par des autorités éloignées de plus de 7000 km. C'est un habillage commode du désengagement de l'État pour ce qui est des dépenses indispensables pour répondre aux besoins de la population en matière de services publics. C'est aussi une façon de préparer le personnel politique local à faire accepter des sacrifices à la population. Victorin Lurel, l'actuel ministre des Outre-mer, est tout fier de nous déclarer que le budget d'Outre-mer pour 2013 a augmenté de 5%. Mais ce budget a toujours été l'un des plus faibles de l'État français. 2 milliards le budget pour 2013, alors que celui de la défense dépasse largement les 30 milliards. 30 milliards en grande partie pour envoyer des troupes aux 4 coins du monde pour tenter de faire régner l'ordre impérialiste français en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Tchad, en Libye et peut-être demain au Mali, dans le nord du Mali. Pendant ce temps, les grosses fortunes locales, celles des gros béquets, continuent de prospérer comme le plus riche d'entre eux, Bernard Ayotte, actionnaire des magasin Carrefour et qui règne sur un empire, sur une multitude de sociétés, sur toutes les Antilles, voire même de la Caraïbe. Aux Antilles, ce ne sont pas les 100 familles qui dominent l'économie et qui exploitent les travailleurs, mais 8 familles de béquets et quelques grosses sociétés françaises. Leurs profits sont assurés. Pour vous donner un exemple, il a suffi d'un froncement de sourcils des patrons, en particulier des béquets, pour que le projet soi-disant de loi de Lurel contre la vie chère soit vidé de sa substance. Substance qui n'était pas si consistante que ça. Les travailleurs et les classes pauvres doivent se serrer la ceinture, alors que les patrons, les riches, les classes aisées continuent de profiter des cadeaux de l'État. Ils continuent de profiter largement des subventions, des dégrèvements fiscaux et sociaux. Tout récemment, le gouvernement les a encore gratifiés du maintien d'une niche fiscale. La suppression de l'ancien plafonnement de réduction d'impôts pour les plus riches et les plus aisés ne s'appliquera pas en Outre-mer. Or, de toutes les niches fiscales, c'est celle-là qui est la plus avantageuse pour les contribuables et les plus riches. Les militants syndicalistes de la CGTG et de la douane sont en train de se pencher sur le niveau des aides diverses et variées accordées au patronat. Il ressort déjà que cette manne représente 100% de leurs investissements, et sinon plus. Alors, s'il y a des assistés, ce n'est pas nous, ce sont eux les assistés et ce sont eux les profiteurs. Ce sont donc les plus riches, les patrons blancs, noirs, indiens, asiatiques, quelle que soit leur origine d'ailleurs, y compris aussi plusieurs patrons français venus profiter des dégrèvements liés à un certain nombre de placements. Voilà, camarades, le tableau de la situation en Martinique et en Guadeloupe. Nous avons fait comme vous aussi lors des dernières élections campagne, avec les mots d'ordre tels que l'échelle mobile des salaires, la répartition du travail entre tous, le contrôle des travailleurs sur l'économie et sur le communisme. Oui, le communisme, c'est le seul espoir sérieux pour l'humanité. Nous continuons à mettre ces mots d'ordre en avant, car en cette période de crise, c'est cela que les révolutionnaires prolétariens doivent mettre en avant. Comme lutte ouvrière, Combat ouvrier milite aussi pour la création d'un parti ouvrier révolutionnaire communiste sur ces deux bouts de terre, reste de l'ancien empire du colonial français. Mais comme nous le disions dans notre manifeste, un petit caillou peut détourner le cours d'une grande rivière. Au-delà de la lutte quotidienne avec les travailleurs, pour ne pas faire les frais de la crise, militer pour la création d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire communiste est notre raison d'être et d'agir. Car le parti ouvrier révolutionnaire sera l'outil indispensable pour les travailleurs d'aller plus loin pour changer leur sort et changer le monde. Merci.